18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio U dans votre quotidienne d'info locale, c'est vous qui le dites. On débute la semaine avec du rock pour nous réveiller un peu malgré la pluie, avec une interview du groupe Commodore qui était présent le 9 mai dernier lors de la foire aux croûtes. Mais tout de suite, nous accueillons David Jousset, directeur de l'UFR, qui vient nous présenter les 30 ans de la faculté Ségalin. Bonjour David Jousset.
Bonjour.
Cette année, la faculté des lettres et sciences humaines Victor Ségalin fête ses 30 ans, avec des événements artistiques, musicaux, mais aussi de la danse, sous le signe de la découverte, qui auront lieu le mercredi 16, jeudi 17 et samedi 19 octobre. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de la faculté Ségalin ?
Oui, bien sûr. Pour nous, c'est très important. C'est une faculté qui a été implantée sur un site où il y avait des baraques après-guerre. Et donc, c'est déjà un symbole de la résistance brestoise et de son nouvel essor. Ensuite, c'est une faculté qui a été créée il y a longtemps, il y a 64 ans. Donc là, en fait, les nouveaux bâtiments de 1994, il y a déjà toute une histoire auparavant sur le site du Bouguin. Et puis, c'est une faculté qui est très intéressante parce que c'est une vraie faculté des lettres pluridisciplinaires, comme il en existe assez peu en France, finalement, et qui présente aussi tout un projet politique d'être un service public de proximité.
La faculté Victor Ségalin propose des formations dans deux domaines principaux, art, lettres et langues, ainsi que sciences humaines et sociales. Quels sont les principaux parcours que ces formations offrent ?
Alors, ce sont des parcours de formation en licence et en master, également avec poursuite possible en doctorat, donc en troisième cycle. Donc, on assure l'ensemble du cursus universitaire sur Brest et sur Quimper, puisque c'est une faculté qui a deux pôles, un pôle brestois et un pôle à Quimper, le pôle Père Jacques Azéliaz. Et puis, nous avons également des formations professionnelles. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer qu'à la faculté, on se forme pas seulement pour trois années de licence généraliste, hein, on prépare en général un avenir, y compris un avenir professionnel. Il y a beaucoup de masters qui ont une dimension forte à ce niveau-là, en psychologie, en sociologie. Il y a même des licences qui sont orientées vers les métiers du tourisme ou les métiers du patrimoine, donc qui sont tellement professionnalisantes.
La faculté propose aussi des pôles de recherche dans différentes pratiques. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces pôles ?
Alors, ce sont des pôles qui sont des équipes de recherche qui sont de taille variable. Leur fonctionnement est en général assez semblant, c'est-à-dire que ce sont des lieux où des enseignants-chercheurs vont être réunis sur des thématiques, sur des axes de recherche. Donc, aussi bien, par exemple, l'étude de correspondance de journaux intimes, l'étude du patrimoine et de l'histoire scientifique pour le deuxième centre, le centre François Viette, des axes de recherche en sociologie, des axes de recherche en littérature. Donc, chaque laboratoire a son autonomie. Il appartient, par contre, à un institut brestois des sciences humaines et sociales que nous sommes en train de faire renaître. Et en général, chaque chercheur a ses propres réseaux, y compris internationaux. Donc, chacun mène ses recherches, mais donc en lien avec un axe au sein du laboratoire.
Et du coup, ces pôles de recherche, ils sont accessibles à tous les élèves ?
Alors, ce sont des unités de recherche donc pour les chercheurs, mais on peut y participer, ne serait-ce que parce qu'ils organisent très fréquemment des journées d'études et de recherche sur Ségalin. Donc, on a une communication sur le site qui permet de participer à ces conférences et à ces journées d'études. Par ailleurs, il y a des publications donc, qui sont accessibles pour les étudiants. Et puis, le principe de l'université, c'est de former par la recherche. Donc, très tôt, on demande aux étudiants de préparer des travaux de recherche, des mémoires. Voilà, donc c'est en particulier le cas en master, mais dès la licence, on leur demande de s'initier, de découvrir la recherche contemporaine, parce que c'est, encore une fois, ce qui différencie l'université d'autres formations du supérieur, c'est que nous avons des chercheurs qui présentent donc non pas le savoir bien connu, mais le savoir en train de se faire, en train de s'inventer. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à ce que la recherche soit présentée au grand public lors de la journée du 7 octobre.
Parmi ces pôles de recherche dont on vient de parler, il y a le centre des correspondances et des journaux intimes que vous avez mentionné. C'est assez intriguant. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bien, son nom l'indique, c'est un centre de recherche littéraire qui a fait le choix original de ne pas travailler d'abord sur des documents de fiction, des romans ou des poèmes, mais sur la correspondance qu'entretiennent des grands auteurs. Ça peut être Ernest Renan, par exemple. Donc voilà, c'est ou René Char, des poètes contemporains. Donc ce sont des travaux voilà, qui ont un angle, je crois, assez unique en France. Donc voilà, c'est un exemple de leur recherche très pointue, parce qu'à travers ces documents, on peut avoir un nouveau regard sur la façon dont se fait la création littéraire.
Le CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, a une place importante aussi au sein de la faculté. Qu'est-ce qu'il représente pour la faculté Ségalen ?
Bien, comme vous l'avez dit, c'est un des plus gros laboratoires, un des plus importants, un des plus anciens également, il y a plus de 50 ans. Ça signe également une caractéristique de l'implantation sur notre territoire, hein, parce que c'est le deuxième centre de recherche avec Rennes dans ce domaine. Et puis, une autre caractéristique, c'est qu'ils se sont beaucoup ouverts à une dimension internationale. Ils soutiennent en particulier un master langue et culture celtique en contact. Donc, c'est un exemple de travail entre tous les pays celtes, y compris donc l'Irlande, l'Écosse, etc. Et donc, ils se sont beaucoup engagés dans l'alliance CIU, l'alliance universitaire de pays qui ont un lien avec la mer. Et puis, par ailleurs, c'est une unité qui accueille des chercheurs CNRS ou des personnes qui travaillent donc pour le CNRS dans le cadre d'un patrimoine tout à fait unique, là aussi, de documents en langue bretonne, parfois très très proche de la première période de l'imprimerie. Et puis là, on va également célébrer la numérisation de rouleaux de cire qui ont permis la saisie, le collectage de chants en breton et en français. Donc c'est un très gros travail qui a été réalisé, qui a été achevé en avril dernier et qui va être mis en scène par des étudiants de l'image et son, des étudiants de l'UBO, qui vont réaliser une œuvre d'art autour de ces documents uniques au monde.
Avant de continuer l'interview, c'est le moment de faire une pause musicale.
Baby says you gotta wait to go, but you're gonna make it.
B16 sur Radio U. Vous écoutez C'est vous qui le dites et nous sommes toujours avec David Jousset, directeur de l'UFR, qui nous présente les 30 ans de la faculté Ségalin. Pour l'occasion des 30 ans de la faculté, de nombreux événements ont lieu sur le site, notamment le mercredi 16 avec une présentation des cylindres phonographiques. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir lors de cette présentation ?
Alors cette présentation, c'est une mise en œuvre d'art, on va dire, de ce patrimoine qui a été numérisé tout récemment. Donc ce sont des cylindres qui représentent un patrimoine unique au monde. Donc ce sont des enregistrements qui ont demandé beaucoup de travail, parce que c'est des sources sonores qui étaient très abîmées. Il a fallu donc les restituer sous forme numérique pour qu'on puisse mieux les découvrir. Voilà, ce sont des chants en français et en breton qui caractérise une époque particulière de notre patrimoine et sur lesquels travaillent notamment donc, les chercheurs du CRBC.
Un groupe de concert, La Souris Noire, présentera son concert en particulier, qui a un lien particulier avec la faculté Ségalin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lequel ?
Alors oui, c'est un concert qui s'appelle Sur les pas de Ségalin, parce que ce groupe d'artistes a choisi de mélanger musique et lecture. Donc en donnant la parole au texte de Ségalin via un comédien, Yves Brien. Et puis ils mettent cela en regard avec la chanson française dans son grand répertoire, comme Brel, Brassens, Mouloudji. Donc l'idée, c'est de montrer la force poétique de ce grand auteur qui était Victor Ségalin. Et puis également de prendre un temps un peu festif, la musique nous entraîne à explorer autrement ce patronyme auquel on est très attaché.
Est-ce que c'est le groupe qui est venu vers vous pour réaliser ce projet ou c'est vous qui les avez contactés ?
Alors, c'est autre chose, c'est l'association Victor Ségalin qui organise deux événements pour ses 30 ans. Donc, cette soirée de concert et lecture, mais également une exposition qui a lieu en ce moment dans la salle Les Abords, une salle facile d'accès depuis le centre-ville quand on arrive à la faculté, dans laquelle on a exposé des œuvres d'une calligraphe française appelée Catherine Denis, qui s'est formée en Chine à l'art de la calligraphie et qui a réalisé une calligraphie géante sur le texte de Victor Ségalin. Donc c'est du texte en français, mais calligraphié à la chinoise, sur de très grands rouleaux qui jouent avec la lumière, et c'est très beau.
Vous venez parler de l'exposition qu'on pourra voir aux abords. Il y aura aussi d'autres expositions qui sont d'ailleurs toujours actives aujourd'hui avec le dispositif FAC Amis des Arts. En quoi consiste ce dispositif ?
Alors, le dispositif FAC Amis des Arts a été institué il y a 10 ans, mais ça fait déjà presque une douzaine d'années que l'idée est émergée de relier la recherche, la formation et la création. C'est-à-dire le propre d'une faculté comme la nôtre, c'est qu'on ne peut pas dissocier ces éléments parce que, par exemple, on travaille sur un texte poétique et pour le comprendre, eh bien, parfois, faire un film, faire une vidéo, et ça existe, des films-poèmes permettent d'aller plus loin dans la réception esthétique de l'œuvre. Donc c'est comme ça que des collègues ont lancé ce projet qui a été institué ensuite avec le doyen Jean-Yves Le Dizès, de soutenir des propositions artistiques qui viennent d'étudiants ou de personnel, enseignants ou administratifs, pour que cette dimension, cette triade de recherche, formation et création soit soutenue, soit portée. Il y a eu comme cela plus d'une quarantaine de projets. Et du coup, ces projets ont été réalisés. Ce sont des vraies thèmes d'exposition. Et elles vont être présentées sous la forme d'un parcours sur tout le rez-de-chaussée. On est guidé pour redécouvrir ces expositions, ces œuvres d'art. Donc ce sera présenté particulièrement le 9 octobre, mais on peut le voir dès maintenant. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous, le rez-de-chaussée est accessible et on peut découvrir comme ça ces œuvres qui commencent dans la salle des abords et qui nous emmènent sur l'ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment.
Si on est intéressé, si on est élève, comment on peut postuler pour faire partie de la fac Amis des Arts ?
Alors il y a un dossier à déposer auprès de Hélène Vidalin. Donc on trouve toutes les informations sur le site de l'UFR. En général, nous, ce qu'on aime bien, c'est que ça rentre dans une démarche complète. C'est-à-dire que ce soit pas seulement un projet individuel, mais comme je disais, un projet qui relie formation, recherche et création. Donc on encourage, effectivement. Il y a eu plusieurs fois des étudiants qui en ont bénéficié indirectement. En général, il y a un portage par un formateur. Ça me paraît important parce que ça s'insère vraiment dans un projet pédagogique, scientifique et artistique.
Ce sont des expositions que l'on peut retrouver actuellement, mais à partir du 19 octobre, de nouvelles expositions seront disponibles. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ?
Tout à fait. Alors, parmi les expositions, il y a une exposition sur la recherche. Donc, on va présenter les 6 laboratoires de l'UFR. Je crois que c'est la première fois qu'ils se présenteront en public, comme ça, tous ensemble, tous réunis. Par ailleurs, il y aura donc une autre exposition d'œuvres réalisées par des collègues. Voilà, donc, je pense par exemple à l'exposition NK, qui est réalisée par un des collègues, Thibault Honoré, qui enseigne à licence art. Donc, c'est une œuvre qu'il a déjà réalisée, mais qu'il va redisposer pour l'occasion. Et puis, on aura également une exposition encore plus innovante, on va dire. On a demandé à tous les Brestoises et Brestois qui le souhaitent, ou les personnes qui sont passées par la faculté, de nous transmettre un peu leurs souvenirs. Donc, c'est un appel que je lance, d'ailleurs. Si vous connaissez des personnes qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont étudié à la faculté Victor Segalen, nous transmettre une image et puis un souvenir sous la forme d'une brève. Et on va les afficher pour montrer la diversité des parcours, pour montrer aussi qu'il y a eu toute une histoire humaine depuis 30 ans et qu'on voudrait honorer. Ce sera présenté dans le grand hall d'accueil.
Donc, ça sera présenté sous forme papier écrite ?
Oui, on va reproduire les photos et les textes pour les personnes qui le veulent bien, pour montrer les visages aussi de ceux qui sont passés par ici. Et puis, l'idée, c'est de montrer comment ces souvenirs s'articulent aussi à une histoire plus importante, on va dire à la grande histoire, puisque cette faculté, elle est née d'un projet, on va dire, de service public étendu dans la province, un projet politique de rendre l'université accessible à tous. Et c'est un projet également de développement de la Bretagne, puisque ceux qui ont créé l'université dans les années 60 s'inscrivaient dans ce mouvement où la Bretagne devait bénéficier des mêmes structures que dans le reste de la France. Donc il y avait une vraie ambition pour le territoire et on en est les héritiers, on est très fiers.
Le samedi 19 octobre sera une journée chargée en événements aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on pourrait y retrouver ?
Alors d'une part, on vous invite déjà à pousser les portes de la faculté, parce que pour nous c'est très important de vous accueillir. On commencera par l'exposition sur la recherche, dès 14h30, puis à 15h, il y a la présentation des cylindres du centre de recherche bretonne et celtique dont on a parlé. Et puis, je dirais, en parallèle, on va avoir plein de propositions. C'est-à-dire là, je vous donne quelques grands rendez-vous, mais on aura également des danseurs qui vont se produire régulièrement, on aura des étudiants qui vont nous inviter à une exposition sur la question du handicap. On va avoir des temps forts, on va se rassembler, par exemple, pour parler de dispositif FADA, mais aussi pour faire une table ronde où on va revenir sur l'évolution, en donnant la parole aux doyennes et doyens qui ont été en responsabilité, mais aussi en donnant la parole à tous ceux qui voudront la prendre dans la salle pour qu'on puisse rappeler les grands moments de cette faculté et célébrer son histoire. Et puis, on vous est également invité pour un cocktail qui sera généreusement servi à 18h30. Et puis à 20h30, l'orchestre universitaire va nous faire l'honneur et le plaisir de nous proposer quelques extraits de son nouveau programme autour des contes et légendes.
Vous venez de parler de l'orchestre symphonique universitaire. En quoi est-ce qu'il consiste ? Comment est-ce qu'il est formé ?
Comme son nom l'indique, c'est un orchestre qui a été créé au sein de l'université par Jean-Philippe Brun, avec l'idée de rassembler enseignants, personnel et étudiants autour de la passion de la musique. Alors, il s'est ouvert, je crois, à des personnes qui sont maintenant en dehors de l'université ou qui n'y sont plus. Et donc, ça fait un ensemble de grande qualité qui est toujours là pour célébrer les grands événements de l'université. Donc, on est très heureux de les accueillir pour cette occasion.
Vous avez parlé tout à l'heure aussi de spectacles de danse. Est-ce que ce sont des élèves qui vont réaliser ces spectacles ?
Alors, ce sont des anciens élèves qui sont maintenant professionnels ou en passe de le devenir. Qui ont un lien notamment avec la licence art. Alors certains sont même encore étudiants au sein de la licence art. Donc ce sont des performances. Nous, on tenait beaucoup à ce que les étudiantes et étudiants s'emparent de l'événement pour montrer que nous formons vraiment un collège, une confrérie, un rassemblement, comme ça a été voulu par l'université, par ses fondateurs, dès l'époque médiévale. Et on est très attachés au fait que les étudiants partagent leur savoir-faire, leur talent à cette occasion.
Merci beaucoup David Jousset d'être venu sur Radio U pour présenter les 30 ans de la faculté Segalen. Toutes les infos concernant la faculté des lettres et sciences humaines Victor Segalen et les 30 ans sont disponibles sur le site internet de l'UBO, ainsi que sur leur Facebook et leur Instagram. Avant d'écouter notre prochaine interview, on fait une petite pause musicale. Merci.
Merci.
C'était Childish Gambino feat. Young Nudy, Little Foot, Big Foot sur Radio U. Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites et on se retrouve avec l'interview du groupe de rock Commodore lors de leur passage à la Foire aux Croûtes le 9 mai dernier.
Radio U s'est déplacé cette fois-ci à Place Guérin sur la Place Guérin, oui, pour la Foire aux Croûtes, pour l'édition spéciale. C'est une édition spéciale en direct de la Foire aux Croûtes, 33e édition, au Triskel, très exactement. Je vais reprendre mes notes, ce sera mieux. Ce soir, il fait chaud, nous sommes placés sous le soleil de Saint-Martin et nous recevons tout de suite Commodore, le groupe Commodore, en tout cas en partie. Déjà, bonjour.
Salut.
Salut.
Ça va bien ?
Ouais.
Pas trop chaud ?
Non, ça va, ça va.
Fait pas trop chaud sous les cheveux ?
Pourvu que ça dure.
Ouais, ouais.
Alors Finistérien, c'est dommage, on n'a pas l'image à la radio, mais on peut voir votre très belle chevelure. Vous êtes un combo gagnant pour être les héritiers du rock des années dont je n'ai pas connu, que je n'ai pas connu.
Nous non plus. Hein.
Ah ouais ?
Oui, on est un peu jeune.
Alors première question, pourquoi faire cette musique ?
Ah. Parce que ça nous fait kiffer, tout simplement.
Tout simplement.
Et puis qu'on a été biberonnés à ça aussi par nos parents, de manière générale. Nos parents avaient de bon goût. On a eu de la chance d'avoir des parents avec qui avaient du goût, donc on a perduré un peu.
Mais merci aux parents.
Exactement.
Ouais, carrément.
C'est pas la fête des pères, la fête des mères, mais on peut dire merci aux parents.
Ouais, merci.
Merci. Je crois que c'est la semaine prochaine d'ailleurs.
Ah ouais, ouais.
J'étais à la ramasse aussi, je crois.
Si tu le dis. Et bah du coup, prochainement, comment vous êtes rencontrés?
Oh, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas posé la question, donc ouais. Je connais plus l'histoire. Avec Matt, qui est juste là derrière avec sa bière, là, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années à peu près, on a eu des groupes ensemble avant. Et Ricky, notre batteur aussi, qui est à l'origine du projet, avait un groupe qui s'appelait Octopus, qui a vachement tourné il y a pas loin d'une dizaine d'années aussi. Et du coup, ça, à l'issue des projets respectifs qui échoué ou qui se sont arrêtés, on a décidé de monter un projet à votre pote. Et on a rencontré Goudzou qui avait fait du son pour un projet précédent. Et puis il n'avait pas de projet à l'époque, donc on lui a dit vas-y, est-ce que t'es chaud à nous rejoindre pour monter un projet de rock rétro un peu cool. Et puis il a dit ouais, et l'aventure a commencé comme ça. Et puis Mélie nous a rejoint après la sortie du premier album Nasty Habits en 2021.
Ouais, exactement.
Voilà. Et bah alors là, va falloir un petit peu éclairer ma lanterne. Vous avez une collaboration, vous avez créé Commodore and the Mundo Drag.
Alors non, Commodore and the Mundo Drag.
T'étais pas loin.
Oui, bah en plus, je savais qu'il y avait un truc, genre, mélange de syllabes. Enfin bref. Mais alors, va falloir éclairer ma lanterne parce que en même temps, vous avez cette collaboration là et en même temps, vous faites votre musique à côté. Comment ça se passe?
Bah en fait, cette collaboration s'est faite pour. Après une rencontre, un concert de Commodore avec Moondrag, ils sont venus nous voir en concert, mais Moondrag n'existait pas encore.
Moondrag existait, ils avaient déjà eu. Enfin, c'était vraiment
c'était
les
tout début. Et, ils nous ont vus, c'était genre peut-être notre quatrième ou cinquième concert avec Commodore, on a joué comme des merdes. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est qui ces mecs là? Ils déboulent avec leur dégaine là, et ils sautent partout, mais ils jouent comme des pieds. On va les contacter. Du coup, ils nous ont contactés, en effet. Et on les a invités à venir jouer, faire une jam, en fait, à Douarnenez, dans les locaux rock. Et on avait une date au Banana Boat. Et on s'est dit, bah, les gars, vas-y, on fout les deux batteries dedans. Ça fait, on était que 6 à l'époque.
Oui,
pour Commodrag, parce que Méline n'avait pas intégré le groupe encore.
Ouais.
Et puis on a bossé 3 reprises la veille du concert. Et on est arrivé le jour du concert et sur la route pour aller, donc on était à pied évidemment, pour aller au BAN, on s'est dit mais putain, est-ce qu'on créerait pas vraiment un groupe? Et on s'appellerait Commodrag and the Monodore, quoi. C'est venu comme ça.
Et ça a vraiment pris forme pendant le Covid, parce qu'on a commencé à s'envoyer des idées, parce qu'on avait rien à foutre. On avait déjà fait nos albums de manière respective, on a commencé à s'envoyer, maqueter à distance. Et on a fait une live session qu'on a présentée à Jean-Louis Brossard des Trans Musicales, en fait, et qui nous a programmé aux Trans à l'issue de cette session filmée. C'était le festival d'un groupe de potes qui s'appelle In the Moonfest. Et c'est là vraiment que le projet a vraiment pris à ce moment-là, quoi. Du coup, on a composé un set pour les Trans Musicales.
En 6 mois.
Et du coup, cette collaboration-là, elle continue? Et en parallèle,
ouais,
des deux groupes?
Ouais, carrément. C'est celle-là qui me prend le plus de temps maintenant.
D'accord. Ouais. Commodrag and the Monodore prend un peu plus de place. Et alors, je ne l'ai pas introduit depuis au début de l'émission parce qu'il était en train de gérer la sono. Parce que ce soir, Pilou fait le Jean Bouton, mais aussi il fait support.
Merci Pilou.
Ouais. Salut tout le monde, c'est Jean Bouton, le retour.
Ouais.
Mais Commodrag and the Monodore, ça marche bien. Là, vous êtes programmé. Vous avez une liste de concerts, un festival à faire cet été là, qui est longue comme le bras, l'avant-bras, tout ce que vous voulez. Quoi.
Ouais, c'est assez cool.
Enfin, on a une équipe qui a vachement bien bossé pour nous, Dionysiac Touring, c'est notre boîte de tour qui fait un travail assez monstre pour nous, on est très très contents. Et notre manageuse aussi, Marie, qui a une boîte qui s'appelle MK Prod, qui bosse énormément pour nous aussi, elle a un sacré réseau et ça nous a permis de pouvoir être présents sur un certain nombre de festivals assez chouettes quand même et d'avoir de la visibilité cet été en tout cas.
C'est cool d'avoir trouvé des gens en fait qui croient en notre folie et dans un monde où...
C'est vrai que c'est
personne n'écoute cette musique, enfin on a l'impression que personne n'écoute cette musique à part nous. Et en fait, si, parce que les concerts se remplissent de plus en plus et c'est cool et on sent qu'il y a un peu un retour du rock comme des groupes.
C'est sûr.
Grâce à des groupes comme Olin Joe's aussi qui sont des super copains à nous et.
Qui cartonnent à fond.
Ouais, on sent qu'il y a un retour du rock.
Il y a une singularité du projet aussi qui permet aussi d'être un peu mis en avant dans le sens où il y a moins de entre guillemets concurrence, dans le sens où il y a ça coupe. Enfin c'est pas des projets. Aussi gros à 7 personnes sur scène, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que si ça permet aussi d'être un peu seul sur le paysage musical actuel dans ce domaine-là, donc ça nous a peut-être donné une certaine force entre guillemets quoi.
C'était un truc totalement inattendu là, de faire les vieilles charrues, de passer sur France Inter, d'être playlisté sur BFM, enfin voilà, tous ces trucs-là.
En fait, à la base, quand Jean-Louis Brossard nous a proposé de faire les trans, c'était notre premier concert avec Homodrague, et on s'est dit, mais où ça va mener ? Personne va vouloir nous suivre là-dedans, parce que le projet est lourd, enfin, à déplacer Homodrague, c'est quelque chose, quoi. Enfin, on a énormément de matos avec nous, donc c'est beaucoup de frais de route. Et heureusement qu'en fait les programmateurs croient en nous et Bambouille FM aussi, enfin tous les partenaires qui nous programment, c'est cool. On pensait pas à ça, clairement.
Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, il y a un retour du rock, mais là j'ai envie de pousser la question un peu plus loin. Est-ce que c'est le rock comme nos parents l'ont connu, ou est-ce qu'il y a justement, il a été un petit peu... influencé par ce qui s'est passé entre les deux, les années 2000, les années 2010, etc.
Je dirais que c'est assez cyclique, hein, le retour du rock en général. On ne s'est jamais vraiment mort. Hein. Parce que même si la même période de l'âge d'or du rock, c'est quand même les années 60, 70 et même 50, il y a toujours eu du rock dans les années 80, 90. Il y a eu un gros revival aussi de groupes anglo-saxons dans les années 2000 et même les 2010. Je pense que c'est jamais vraiment mort, mais c'est plus devenu de niche, le rock, musique de niche, quand même qu'une musique grand public comme peut l'être le rap à l'heure actuelle ou les musiques pop. Après, il y a aussi le fait d'être en France qui fait que le paysage quand même musical actuel est dominé par la variété. Et le rap aussi. Chose que dans d'autres pays, je pense qu'il y a quand même plus de... C'est quand même plus éclectique en termes de programmation, en termes de programmation FM.
Mais est-ce que le rap n'est pas devenu de la variété ? Paf, question.
Tu poses une colle. Je pense qu'on n'est pas assez calé dans le domaine pour y répondre.
Non, c'est
moi, je ne suis pas calé, en tout cas, à titre personnel.
Revenons peut-être à la foire aux croûtes, justement. Donc, ce soir, vous allez jouer à partir de 21h, si j'en crois bien mes notes.
21h30. 21h30. On est venu à 21h.
C'est noté à 21h sur le programme. Oula. En tout cas, c'est votre première fois, normalement.
Exactement.
Ouais. Et pourquoi c'est votre première fois ? Vous ne vouliez pas avant, c'est ça ?
Bah, c'est pas nous, hein.
On n'avait pas été
invité. Jamais demandé, hein.
Bon, vous êtes content au monde d'être là.
Bah ouais.
Je suis toujours content de jouer à Brest.
Ah, moi, je suis particulièrement content parce que je suis du coin. Je suis le seul qui suis du côté de Brest. Je suis à Saint-Divy, moi. Et la foire aux croûtes, je venais me prendre des bitures monumentales ici, donc... Ouais, c'est cool d'y jouer, donc on verra ce soir où ça mène.
La boucle sera bouclée.
Vous revendiquez toujours Douarneniste, ou maintenant que c'est un peu éparpillé et qu'il y a des gens de Saint-Divy par exemple?
Bah, ça a toujours été Douarnenais en fait. Moi, je suis rapatrié. Ouais, je suis l'expat en fait, quoi.
C'est l'expat, exactement. Bon, il est finistérien quand même, on va pas non plus trop.
Plus vous avez pas de bassiste de toute
exactement,
façon.
Exactement, en plus.
Eh ben merci beaucoup
à tous les
venus. On va se faire une petite pause. Juste une petite question, si on écoute un titre de Commodore, vous voulez écouter quoi là ? Comme ça, à brûle pour point, paf, sans avoir réfléchi.
Believe it. Oh allez, vas-y, faisons ça.
Ouais ?
Ouais.
Believe it ?
Allez.
Believe it. Allez, on va chercher ça, Believe it, c'est parti. Eh ben, Believe it de Commodore que vous retrouvez tout à l'heure, on a dit soit à 21h, soit à 21h30.
Venez à 21h.
À 21h.
Sûr d'avoir dit. C'est de là. Carrément.
Eh ben merci les gars, bon concert.
Merci à vous les gars.
Vous venez d'écouter Believe It de Commodore sur Radio U dans C'est vous qui le dites. On rappelle que le groupe sera en représentation le 12 octobre à l'Améthyste à Crozon. Merci encore à David Jousset, directeur de l'UFR, de nous avoir présenté les 30 ans de la faculté Ségalin. Toutes les infos concernant les événements sont disponibles sur le site internet, Facebook et Instagram de l'UBO. C'est vous qui dites, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain même heure pour une nouvelle émission sur Radio U. Bonne soirée à toutes et à tous.